une fois par mois, vous écoutez Billets d'Afrique, une émission où on ne parle pas que d'Afrique.
Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête.
Une émission où l'on parle de colonialisme. Parce que ça manque dans le paysage.
Territoire occupé.
Parce que si on veut que le monde change, il va falloir changer les règles du jeu.
Comment veux-tu qu'on s'appelle lorsque leurs troupes sillonnent le réel?
Vous êtes bien sûr Fréquence 7, c'est Billets d'Afrique et ce mois-ci, nous nous alignons à l'actualité brûlante. Je vous parlerai donc aujourd'hui de la Kanaky, autrement appelée par les Blancs la Nouvelle-Calédonie. Le peuple kanak ne cesse de demander plus d'autonomie et plus de respect, pourquoi pas. Aujourd'hui donc, un sujet qui s'aligne sur l'actualité mais que j'avais déjà prévu d'aborder puisque la Kanaky est une des dernières colonies françaises qui ne veut toujours pas dire son nom comme j'en avais parlé avec l'épisode sur Mayotte. Et si aujourd'hui le drapeau tricolore flotte sur cet archipel du Pacifique, il faut savoir à quel prix ça s'est fait et quelles seront les conditions d'un futur souhaitable, ensemble ou non. Pour comprendre la situation d'aujourd'hui, il faut revenir aux origines de la colonisation de ce territoire, dont les peuples autochtones ont été colonisés par la France de Napoléon III en 1853. Sur place, le peuple présent depuis environ 3000 ans dans l'archipel s'appelle les Kanaks. Jusqu'en 1946, les Kanaks n'étaient pas des citoyens de l'Empire, mais des sujets soumis au régime disciplinaire de l'indigénat. Placées sous le code de l'indigénat, les populations autochtones étaient soumises à des travaux forcés, à une interdiction de circuler après 20 heures, au paiement d'un impôt imposé par l'administration française à tous les sujets de l'État colonial. Et oui, sujets et non pas citoyens, et ce jusqu'en 1946, il y a 68 ans. C'était il n'y a pas si longtemps. Mais revenons au début de cette triste histoire commune. Rapidement, la France transforme le pays en bagne, car comme dans tout projet colonial, il faut envoyer des gens. Et l'idée d'aller s'exiler de l'autre côté de la planète ne séduit pas grand monde à l'époque. C'est ainsi que démarre la spoliation des terres des Kanaks. La colonisation de peuplement est faite de confiscations foncières, d'un génocide rampant des Kanaks et d'une politique de ségrégation raciale et spatiale. Selon les textes historiques, ces habitants premiers étaient environ 40 000 à l'arrivée des Français, ce chiffre est divisé de moitié au début du XXe siècle. Et si les Kanaks accèdent au statut de citoyen en 1956, la situation sociale à cette époque est toujours aussi inégale entre autochtones et descendants de colons européens. Et un racisme décomplexé s'exerce sur l'archipel. Inégalités qui mèneront au premier mouvement indépendantiste dans les années 70 et plus largement aux révoltes des années 80, avec pour point culminant la prise d'otage d'Ouvéa qui fera 21 morts, que les journalistes appellent régulièrement les événements de la grotte d'Ouvéa. Comme de nombreux faits historiques capitaux, il faudrait y passer plus de temps pour vous expliciter un petit peu la situation. Mais puisque je ne le ferai pas aujourd'hui, sachez le plus important, les revendications indépendantistes étaient au cœur de ces événements. Aujourd'hui, certaines et certains s'étonnent que la situation en Kanaky ne convienne pas aux Kanaks. Bien chanceux seraient-ils qu'on leur ait tendu la main et qu'ils puissent toucher le RSA, etc. Les commentaires des fachos vont bon train sur Internet. Entre racisme, mépris et ignorance, on peut trouver foule de lectures dans ce sens. Mais pourtant, les revendications d'indépendance ne datent pas d'hier. Comme vous allez l'entendre, elles ont toujours eu lieu, puisque qui accepterait une situation d'oppression comme celle-ci? Le temps a passé et rien n'a changé. Voilà comment nous sommes arrivés à cette situation évidemment explosive. Pour m'aider dans cet épisode à vous expliquer, je vais me servir d'une vidéo du collectif Survie, le collectif anticolonialiste que je vous invite à chaque fois à aller voir sur internet. Je vais aussi utiliser des archives de l'INA et surtout une lecture du préambule des accords de Nouméa, les fameux accords desquels on est parti et qui servent de base aux revendications indépendantistes aujourd'hui.
Accord sur la Nouvelle-Calédonie, signé à Nouméa le 5 mai 1998. La colonisation de la Nouvelle-Calédonie s'est inscrite dans un vaste mouvement historique où les pays d'Europe ont imposé leur domination au reste du monde. Des hommes et des femmes sont venus en grand nombre au XIXe et XXe siècle, convaincus d'apporter le progrès, animés par leur foi religieuse, venus contre leur gré ou cherchant une seconde chance en Nouvelle-Calédonie. Ils se sont installés et y ont fait souche.
Mais aujourd'hui, il est question d'inventer un destin commun. Le projet peut être formulé ainsi : construire un pays autonome dans lequel les différentes strates historiques de peuplement pourraient vivre sur un pied d'égalité, sur la base d'une reconnaissance commune. Cette idée n'est pas de moi, mais bien des indépendantistes kanaks eux-mêmes. Les différentes strates de peuplement, de quoi parle-t-on ? Pour compenser les échecs de la colonisation libre, la France organise l'importation d'une main-d'œuvre dépendante. La colonie pénitentiaire, le bagne, démarre en 1864 par l'importation, devrais-je dire déportation, d'environ 22 000 personnes au profil divers, détenus de droit commun, indigents, communardes, sujets algériens de l'Empire. Cette colonie pénitentiaire, qui continuera d'exister jusque dans les années 1920, est aussi importatrice d'une main-d'œuvre forcée venant d'autres colonies, Indochine, Nouvelles-Hébrides, Inde-Orientale, Néerlandaise, et du Japon, des années 1870 aux années 1920. Ces personnes arrivées là sans l'avoir choisie ont eu des descendances et ont, comme dit l'expression, fait souche. Puis plus tard, l'afflux organisé par l'État français d'immigrants en provenance de la France fait une immigration massive, encouragée par l'État français donc, pour noyer dans le nombre les revendications politiques kanaks. Environ 35 à 40 000 personnes arrivèrent en à peine 10 ans, alors que les territoires comptaient moins de 150 000 personnes à l'époque.
Et pour les maintenir en minorité chez eux, la France y envoie des nouvelles populations. C'est ça, ce qu'on appelle une colonie de peuplement. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, les Kanaks ne représentent plus que 39% de la population. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le temps des décolonisations dans le monde entier. Mais la Nouvelle-Calédonie, elle passe directement du statut de colonie à celui de territoire d'outre-mer. Exit l'indépendance, il n'en sera même pas question. Sur le papier, le peuple Kanak obtient des droits, mais dans les faits, il reste profondément discriminé et sous tutelle française. Aujourd'hui, même si le territoire est plus autonome, c'est toujours la France qui gère les domaines les plus sensibles. C'est ce qu'on appelle les compétences régaliennes. C'est la monnaie, la défense, la justice, le maintien de l'ordre, les relations internationales. Ça fait donc 170 ans que l'armée française occupe le pays. La monnaie est toujours imprimée et gérée depuis Paris. La société calédonienne reste profondément inégalitaire et raciste. Les Kanaks subissent toujours ségrégation et discrimination. Ils sont davantage touchés par la pauvreté et par le chômage. À Nouméa, la ville principale, ils ont plus de mal à avoir un logement et ils ne peuvent pas entrer dans certains restaurants ou bars. Et c'est notamment pour ça qu'elle a été surnommée Nouméa la Blanche par les premiers indépendantistes. Et s'il y a des colonisés, vous vous en doutez, il y a aussi des personnes qui profitent de cette situation coloniale. L'économie, elle est toujours aux mains des grandes familles issues des premiers colons ou d'entreprises françaises. Les fonctionnaires français qui partent en Nouvelle-Calédonie ont des salaires presque doublés par rapport à la métropole. Donc forcément, ça accentue les inégalités sociales et ça favorise encore leur installation et donc la mise en minorité des Kanaks. Cette domination coloniale, évidemment, les Kanaks n'ont jamais cessé de la combattre. Dans les années 1980, notamment, ils se mobilisent massivement en bloquant la production de nickel, en boycottant les élections. Ils se heurtent à la violence de l'État et même des colons qui n'hésitent pas à utiliser les armes contre eux. C'est une période très violente avec près de 90 morts, surtout chez les Kanaks.
En Kanaky, tout le monde n'est donc pas venu de son plein gré, c'est le moins qu'on puisse dire. À Nainville-les-Roches, en 1983, on parlera pour la première fois officiellement des bagnards et déportés comme victimes de l'histoire. C'est en reconnaissant cette partie de l'histoire coloniale que les mouvements indépendantistes kanaks ont opté à la signature des accords de Nouméa pour une main tendue à ses descendants de colons qui n'avaient pas choisi de participer au projet colonial français et qui l'ont fait bien malgré eux et elles. Mais le préalable est une nécessaire reconnaissance mutuelle. Reconnaissez que nous sommes le peuple premier et nous vous reconnaissons une légitimité à être ici, à être citoyenne aussi.
Le moment est venu de reconnaître les ombres de la période coloniale, même si elle ne fut pas dépourvue de lumière. Le choc de la colonisation a constitué un traumatisme durable pour la population d'origine. Des clans ont été privés de leur nom en même temps que de leur terre. Une importante colonisation foncière a entraîné des déplacements considérables de populations, dans lesquels des clans Kanak ont vu leurs moyens de subsistance réduits et leurs lieux de mémoire perdus. Cette dépossession a conduit à une perte des repères identitaires. L'organisation sociale Kanak, même si elle a été reconnue dans ses principes, s'en est trouvée bouleversée. Les mouvements de population l'ont déstructurée. La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple Kanak, qu'elle a privé de son identité. Des hommes et des femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leur raison de vivre. De grandes souffrances en sont résultées. Il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple Kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté, préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté, partagée dans un destin commun. La décolonisation est le moyen de refonder un lien sociable durable entre les communautés qui vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, en permettant au peuple Kanak d'établir avec la France des relations nouvelles correspondant aux réalités de notre temps. Les communautés qui vivent sur le territoire ont acquis par leur participation à l'édification de la Nouvelle-Calédonie une légitimité à y vivre et à continuer de contribuer à son développement. Il convient d'ouvrir une nouvelle étape, marquée par la pleine reconnaissance de l'identité Kanak, préalable à la refondation d'un contrat social entre toutes les communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie, et par un partage de souveraineté avec la France, sur la voie de la pleine souveraineté. Le passé a été le temps de la colonisation, le présent est le temps du partage par le rééquilibrage. L'avenir doit être le temps de l'identité dans un destin commun.
Les indépendantistes obtiennent enfin des négociations, puis des accords avec l'État et les partisans de la Calédonie française pour un processus de décolonisation qui sera progressif. C'est les accords de Matignon en 1988, puis de Nouméa en 1998, qui ouvrent une période de transition de 20 ans. L'accord dit clairement « L'État reconnaît la vocation de la Nouvelle-Calédonie à bénéficier à la fin de cette période d'une complète émancipation ». C'est donc à partir de ces accords que la Nouvelle-Calédonie obtient plus d'autonomie et que trois consultations sur l'accession du pays à la pleine souveraineté sont enfin prévues. Officiellement, ce ne sont pas des référendums, car c'est le Parlement français qui aura le dernier mot, en fait. La population kanak et calédonienne est simplement consultée.
Aujourd'hui, de fait, les cohabitations sont difficiles et le multiculturalisme de l'archipel n'est pas digéré et assumé en réalité. Un travail social d'acceptation de l'autre qu'on peut comprendre difficile dans une situation où le peuple premier, les Kanaks, se trouve marginalisé et en minorité sur son propre terrain. Le vivre ensemble n'est pas simple dans ce contexte. Et les caldoches loyalistes, ceux qui veulent garder coûte que coûte un attachement à la France, n'y mettent pas beaucoup de bonne volonté, on pourrait dire. Une preuve s'il en fallait une, pendant les révoltes qui viennent d'avoir lieu en mai, de véritables milices blanches se sont fait connaître. Des colons d'origine européenne voulant lutter contre les indépendantistes sont aussi descendus dans la rue. Sur les réseaux sociaux et devant les forces de l'ordre, les miliciens s'affichent ouvertement avec des armes dont ils font usage. Philippe Blaise, par exemple, vice-président de la province du Sud, une des trois provinces de la Kanaky, qui fait partie de la droite dure coloniale, s'affiche en tenue paramilitaire au cœur des milices à qui il lance des instructions de discrétion. Par exemple, de ne plus publier sur les réseaux sociaux de photos d'eux-mêmes puisque ça pourrait alimenter trop les indépendantistes. Ben, tu m'étonnes. On constate aussi concrètement un parfait alignement entre les acteurs étatiques et les milices coloniales. Les gendarmes et policiers protègent et ouvrent la voie à ces milices que les colons se targuent d'essayer de créer dans chaque quartier. Ces groupes portent ouvertement des armes, même en présence des forces de l'ordre, sans être désarmés. On peut aussi rappeler que grâce à une simplification de l'acquisition d'armes en 2011, ce sont plus de 100 000 armes qui circulent dans l'archipel pour 280 000 habitants. Ces armes seraient, selon Isabelle Merle, une historienne directrice de recherche au CNRS, très majoritairement en possession des populations blanches, sous l'impulsion du gouvernement loyaliste, qui sont désormais organisées en milices et à l'origine de la mort des Kanaks. Kanaks qui sont d'ailleurs complètement absents du débat médiatique aujourd'hui où l'on aperçoit uniquement des caldoches et des métros sur les chaînes de télé, un biais qui n'a finalement rien d'étonnant. Deux des personnes Kanaks qui ont été tuées récemment l'auraient été par une personne blanche décrite comme « quelqu'un qui a certainement voulu défendre ses biens, en l'occurrence une bagnole ». On remarque que si beaucoup s'indignent de la mort de malheureux gendarmes, peu de monde s'indigne de la mort tout aussi horrible et inqualifiable, intolérable des jeunes Kanaks, qualifiés de pillards sans qu'aucune enquête n'ait été menée pour prouver ces accusations. Le haut commissaire qui représente l'État français dans le pays a eu pour première réaction de relativiser la mort d'un des jeunes Kanaks. Par l'utilisation de termes comme « délinquant », les autorités françaises cherchent à disqualifier les mobilisations des jeunes Kanaks en lutte contre la colonisation, qui leur impose discrimination raciste, paupérisation et exclusion. Certes, les jeunes explosent à Nouméa et dans ses banlieues, un peu comme ça se passe dans les banlieues de métropole face à l'injustice ressentie par tous les laissés pour compte. Là-bas, de la colonisation, ici, de notre société capitaliste, et partout où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Contrairement à ce qu'est claironné par bon nombre de médias et de responsables politiques, personne ne manipule ces jeunes, les invisibles du pays. Il n'y a qu'à en prendre pour preuve les actions de barrage paisibles menées par les militants de la CCAT, jusqu'à présent en dehors du Grand Nouméa. La CCAT, c'est la cellule de coordination des actions de terrain. Le collectif anticolonial Survie, d'ailleurs, dénonce la volonté exprimée ouvertement par le gouvernement français de criminaliser la CCAT, qualifiée par Gérald Darmanin de groupe mafieux. Les médias français reprennent sans distance la qualification de frange la plus radicale du Front de libération kanak socialiste, le FLNKS, distillée par l'État. Ça ne correspond nullement à la réalité et surtout participe à une stratégie volontaire visant à isoler une partie du mouvement indépendantiste préparant les esprits à son élimination politique ou même physique. Dans les années 80, cette même stratégie avait été déployée par la France et avait abouti notamment à l'assassinat d'Éric Éloi Machoro par le GIGN, présenté comme un élément radical dissocié artificiellement du reste des indépendantistes. Donc si la situation a été explosive récemment à Nouméa, c'est de la responsabilité de notre État colonial qui joue le jeu de la recolonisation du pays depuis plusieurs années. Malgré les retours de bâton incessants de l'État français qui est sorti depuis longtemps de son impartialité, les indépendantistes ont toujours tendu la main aux autres communautés. Cette réforme constitutionnelle pour le changement, le dégel du corps électoral dont vous avez entendu parler, tente à noyer le peuple kanak dans son propre pays, annule plus de 30 ans de paix et d'accord pour la construction d'un destin commun. Nous ne pouvons que nous révolter face à cette situation qui est créée de toutes pièces pour faire taire les voix indépendantistes. Si les indépendantistes sont les seuls pointés du doigt, pour le chaos actuel, le gouvernement semble oublier un point important, c'est lui-même qui a mis le feu aux poudres en revenant sur un accord qui avait apporté une paix fragile pendant près de 40 ans, donc après les accords de Nouméa, et qui devait acter un processus de décolonisation et non pas maintenir le petit drapeau tricolore dans le Pacifique, coûte que coûte. Et oui, il n'est malheureusement pas fini ce temps des colonies. La Kanaky en est l'illustration, le pays étant engagé dans une décolonisation qui n'en finit pas. Comme je vous disais, ça ne date pas d'hier et je vais vous laisser des extraits d'une lettre ouverte qui date de novembre 2021, la fameuse dernière consultation, le troisième référendum, comme on dit, pour décider que la Kanaky resterait ou non française. Un texte écrit à Nouméa au lendemain du Covid dévastateur suite à une deuxième vague dans le pays et juste avant ce vote donc. Un texte qui trouve aujourd'hui encore malheureusement toute sa pertinence. Si je vous en passe des extraits à l'antenne aujourd'hui en 2024, c'est pour avoir des clés d'analyse du présent. À l'écoute, on comprend les conditions des possibles futurs communs ou de possibles impasses. Mais surtout, si je voulais vous faire écouter, c'est pour vous montrer comme les tragiques événements d'aujourd'hui, de l'actualité, ne peuvent pas être une surprise pour les politiques français. Dire que le oui à ce troisième référendum en 2021 l'a emporté, c'est cacher une énorme vérité. Les Kanaks, dans l'écrasante majorité, n'ont pas voté. Ils et elles ont boycotté le vote à l'appel des indépendantistes.
La prochaine consultation référendaire n'a aucune chance de clore la séquence politique ouverte par l'accord de Nouméa. Cette séquence est bien plus ancienne que la signature de l'accord de Nouméa le 5 novembre 1998. Cette séquence s'est ouverte en juillet 1983 avec la table ronde de Nainville-les-Roches. C'est en effet au cours de cette réunion qu'ont été posés les deux grands principes fondateurs du contrat moral et politique sur lesquels nous tous qui résidons en Kanaky-Nouvelle-Calédonie vivons encore aujourd'hui. Ces deux grands principes doivent être constamment rappelés. Le premier est la reconnaissance par l'État français d'un droit inné et actif à l'indépendance pour le peuple kanak, le peuple colonisé de ce pays. C'est la première fois que l'État français nous reconnaissait ce droit alors même qu'il nous était reconnu officiellement depuis plus longtemps au plan international, depuis la déclaration sur l'octroi des indépendances aux pays et aux peuples coloniaux des Nations Unies en 1960. 23 ans après cette déclaration onusienne signée à l'époque, rappelons-le, par l'État français, celui-ci daignait enfin nous reconnaître ce droit inné et actif à l'indépendance, et ce n'est pas rien. Le second grand principe était l'acceptation par le peuple kanak d'associer au futur processus de décolonisation et d'émancipation les membres des différentes communautés venues s'implanter dans le pays avec la colonisation. L'expression employée à l'époque était « les victimes de l'histoire ». Une expression pour dire que tous ceux qui s'étaient installés dans le pays depuis la prise de possession en 1853 n'étaient pas forcément arrivés de leur plein gré avec l'intention de nuire au peuple kanak, que beaucoup parmi eux avaient connu la misère et la souffrance. Ces deux grands principes issus de Nainville-les-Roches sont liés. L'acceptation d'associer les autres communautés calédoniennes au devenir du pays n'était possible, n'était pensable, et ne fut acceptée par les kanaks que parce que leur était au préalable reconnu, leur droit inné et actif à l'indépendance. C'est à partir de ce lien qu'il faut lire ensuite toute l'évolution institutionnelle de notre pays jusqu'à l'accord de Nouméa, ainsi que l'engagement qui a été le nôtre jusqu'à aujourd'hui en faveur de cette évolution. Nous ne sommes ni naïfs ni amnésiques. Nous savons que nos vieux ont dû se battre pour que cette évolution devienne possible.
Après ce texte prémonitoire, remontons encore un peu dans le passé pour aller jusqu'en 1987, à l'époque des premières idées de référendum. Et vous allez l'entendre encore une fois tout de suite, le boycott massif des indépendantistes, considérant ces scrutins comme une mascarade et ne leur permettant pas de décider de leur avenir. Eh bien, ce boycott en 1987 montre déjà les nécessités du dialogue et de l'écoute des revendications kanaks.
Au soir du dimanche 13 septembre 1987, les résultats n'étonnent que ceux qui ne connaissent pas le contexte calédonien. Plus de 98% des votants ont glissé dans l'urne le bulletin bleu pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Et moins de 2% des électeurs se sont déclarés pour l'accession à l'indépendance, taux de participation un peu plus de 59%. Pour Bernard Ponce, le ministre des Dom-Tom de l'époque, le verdict des urnes suffit à clarifier définitivement la situation. Aveuglement ou méthode couée, le ministre gaulliste oublie presque que les indépendantistes ont boycotté massivement ce référendum.
Le peuple kanak, seul peuple légitime, rejette catégoriquement tout résultat de ce référendum bidon.
C'est pas parce qu'il y a eu un référendum que d'un coup de baguette magique, le peuple kanak a disparu.
Il n'y aura pas de statut définitif pour le territoire tant qu'il n'y a pas de prise en considération de la revendication kanak.
Un référendum pour rien ou la chronique d'un échec annoncé.
Le 13 septembre, au soir, certains vont sabler le champagne. Le lendemain, nous serons là pour dire merde et pour dire que nous sommes là et que nous serons toujours là et chaque Kanak naissant naîtra encore avec le droit à l'indépendance. Et ce droit-là, aucun référendum de Ponce ou d'autres ministres ne remettra en cause.
Le vote du 13 septembre garantit pour longtemps, aussi longtemps qu'une autre majorité calédonienne ne viendra pas le contredire, le caractère intangible de... de votre appartenance à notre pays, la France.
Ce référendum n'aura finalement rien changé. Malgré une large autonomie, la Calédonie va replonger dans la violence 7 mois plus tard, avec la dramatique prise d'otage d'Ouvéa le 22 avril 1988.
Et n'oublions pas une chose, les intérêts, toujours. Les intérêts d'une France coloniale en Nouvelle-Calédonie, c'est une position stratégique dans le Pacifique, bien sûr, mais surtout l'extraction minière de ce minerai appelé le nickel. Ça n'est pas une chance pour les Kanaks que la France soit allée à l'autre bout du monde dans le Pacifique prendre ses intérêts, c'est bien une chance pour le colonisateur. Et c'est nous qui bénéficions des retombées économiques de l'extraction du nickel, ce si précieux métal. J'ai pu lire récemment sur des sites de fachos, et oui, je m'informe comme je peux, que le nickel n'avait de la valeur que parce que les Blancs étaient allés lui en donner. C'est bien mal connaître le monde globalisé dans lequel nous vivons, et grâce à cette extraction minière, la France s'est hissée au rang de 4e producteur mondial. Le nickel a été découvert sur l'île en 1864, en 1880, la société de nickel voit le jour. Elle dominera l'industrie minière pendant un siècle. Il faut attendre le milieu des années 90 pour que la société minière soit transférée à la Sofinor, une société de financement de la province Nord, gérée par les indépendantistes kanaks. Et ce n'est qu'en 98 que la question du nickel est reconnue par la France comme centrale dans les revendications kanaks pour élaborer leur autonomie. Ben tiens, 98. Les accords de Nouméa. Le prix de la lutte, donc. L'idée des indépendantistes était évidemment de mettre en valeur la ressource minière nationale. Le sous-sol des îles en Kanaky est très riche en nickel. Il y a donc une exploitation intensive avec plusieurs usines. Notamment, la passation de la gérance de l'une d'elles il y a quelques années a donné lieu à de très nombreux sabotages de la part de la communauté kanak qui espérait à ce moment-là, par exemple des barrages routiers ou des incendies, avoir plus leur mot à dire sur l'exploitation minière, puisque c'est quand même leur île qu'on est en train de défoncer écologiquement, et également avoir plus de retombées économiques, plus d'emplois, pouvoir décider les calendriers d'exploitation, pouvoir décider à qui et comment elles exportent. Ça n'a pas du tout marché, et les revendications autour d'usines du Sud, d'usines pays n'ont absolument rien donné. Je me rappelle qu'à cette époque, il y a eu de très nombreux sabotages, notamment de la serpentine, qui est l'espèce de tapis roulant infini qui traverse la jungle et qui permet d'acheminer le nickel jusqu'à l'usine de transformation. Et malgré tous les risques pris par les Kanaks et malgré toutes leurs actions, eh bien, c'est toujours la France, le gouvernement français, qui a décidé de l'avenir minière. De grandes multinationales ont pris part au gâteau et le jeu du nickel, bien que toujours central dans les revendications et les perspectives d'indépendance, est devenu un levier pour plusieurs acteurs, ce qui rend la situation complexe. Qui est actionnaire, à combien de parts, qui décide, quelle est la part de la métropole, combien ils ont mis dessous. La métropole a de fait injecté beaucoup d'argent dans l'exploitation minière. Bref, ce n'est pas un tableau en noir et blanc et la chute du cours des ressources minérales depuis 2009 n'a pas arrangé l'affaire des indépendantistes. Pour autant, aussi partagés que soient les investissements actuels et qui que ce soit qui ait mis de la thune, et quelle que soit leur importance sur le plan géostratégique, si on se place d'un point de vue politique, est-ce qu'on peut réellement penser l'avenir de ce minerai, de son exploitation sans les Kanaks ? Surtout si on prend en compte que les massifs miniers se situent pour la plupart sur des espaces domaniaux, donc « publics » entre guillemets, revendiqués souvent comme des terres coutumières. La Nouvelle-Calédonie, pour information, possède un quart des réserves mondiales de nickel. Dans la crise dramatique que traverse ce secteur, les indépendantistes s'interrogent sur le rôle joué par l'État français. À travers son plan de relance, dit le pacte nickel, celui-ci semble en effet vouloir remettre en cause la transformation du minerai sur place, ce qui est plus rentable que la vente de minerai brut. Ça constitue aux yeux des indépendantistes une nouvelle entrave à leur stratégie, et aujourd'hui, en 2024, ça risque de rendre la situation tout aussi explosive, même une fois le calme revenu dans l'archipel.
Si la France a du mal à lâcher le morceau, C'est parce qu'elle a beaucoup d'intérêts en Nouvelle-Calédonie, bien sûr. Une position stratégique dans le Pacifique, une base militaire, des ressources minières, des ressources maritimes. Elle est donc à la fois juge et partie dans cette histoire. Elle est censée organiser la décolonisation, mais elle n'est pas neutre, puisque c'est elle, la puissance coloniale. Nier la vie du peuple colonisé, imposer son agenda, bafouer ses engagements, user de sa force armée, l'État français joue un jeu trouble depuis toujours, de la colonisation à la France-Afrique. Il a déjà montré qu'il ne reculait devant rien au nom de ses intérêts, même s'il faut pour cela piétiner la souveraineté des peuples. La lutte kanak a donc plus que jamais besoin de notre soutien. Nous pouvons refuser cette politique coloniale menée en notre nom, en étant solidaires du peuple kanak et de sa revendication à la liberté et à l'indépendance. Parlez-en autour de vous, partagez ces infos, manifestez votre soutien. La domination coloniale doit cesser.
Je vous conseille très chaudement la lecture de la brochure éditée par l'association Anticoloniale Survie, dont je vous parle à chaque fois maintenant, qui vise à fournir des clés de compréhension de la situation en Kanaky. Cette brochure, c'est un sacré travail de synthèse où toute l'histoire coloniale depuis 1953 et les aspirations indépendantistes sont reprises point par point. Évidemment, ça y parle de l'extraction minière du nickel. Je vous recommande également la lecture du livre de Saïd Bouamama qui s'appelle « Planter du blanc ». Saïd Bouamama, c'est le sociologue fondateur notamment du FUIQP, le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, qui est un intellectuel passionnant. Il a donc écrit ce livre « Planter du blanc » qui part du référendum pour l'indépendance de la Kanaky de 2018, le premier volet des trois consultations donc, aux explosions sociales qui secouent Mayotte épisodiquement. Je vous en parlais le mois dernier dans Billets d'Afrique. En passant par l'empoisonnement des populations antillaises au chlordécone ou encore la dévastation prévue de la Guyane par le projet minier Montagne d'Or. Saïd Bouamama explore à travers une série de textes incisifs et didactiques le passé et le présent coloniaux de la France. Naviguant dans cette histoire des génocides coloniaux aux accords de coopération, aux coups d'État militaires de la France-Afrique, aux Francs CFA, en passant par le racisme d'État, ce livre contribue à rappeler que la France a été et reste une puissance coloniale. Il s'ouvre ainsi par cette citation d'Aimé Césaire, de petits points, ouvrez les guillemets, je le répète, le colonialisme n'est point mort. Il excelle pour se survivre, à renouveler ses formes. Après les temps brutaux de la politique de domination, on a vu les temps plus hypocrites. Mais de quelques masques que s'affuble le colonialisme, il reste nocif. Et c'est sur ce fond d'exploitation que je vous laisse. C'était la dernière de cette année. Comme l'a dit la militante de survie, je vous invite à parler de ce sujet autour de vous pour que les Kanaks trouvent dans la population française un soutien et des alliés. On se quitte avec une musique d'Ibalkan, qui est un rappeur qui nous chante Petit Kanak, mais juste avant, une intervention de Jean-Marie Tchibaou, leader indépendantiste Kanak, qui parlait juste après les événements de la grotte d'Ouvéa et dont je souhaiterais que les paroles résonnent encore aujourd'hui. Portez-vous bien.
Et si le FLNKS a engagé ces mouvements, c'est pour dire halte à la négation de ce que nous sommes, halte à la logique que nous appelons coloniale. Il faut enfin que l'État impartial s'exerce dans notre pays au niveau de la justice, au niveau de la formation, à tous les niveaux, que l'on soit ensemble considérés simplement comme des participants à l'humanité, quelle que soit notre couleur de peau.
Petit Kanak, ne fais pas attention à ceux qui te dénigrent. Tu t'en sortiras même s'ils veulent te pousser dans le vide. Tu es ici chez toi, même si certains pensent le contraire. Tu es ce que tu es et ton nom te rattache à ta terre. Je te le dis, sois fier de ton identité. Reste le même et affirme-toi en crachant la vérité. Prouve à tous que ce qu'ils font toi aussi, tu peux le faire. Et si ça les énerve, dis-toi que tu représentes pour tes frères. Ce putain de système veut ta perte et tu le sais. Issu d'un peuple colonisé, tu en seras toujours traumatisé. Mais cela, certains refuseront toujours de l'admettre. Excuse-moi vulgarité, mais qu'ils aillent tous se permettre. Et d'ailleurs, tu n'as pour maître que ton père et ta mère. La famille c'est sacré et c'est ton tout premier repère. Et si tu erres sans raison, ressaisis-toi de suite. Évite de déconner ou les flics se lanceront à ta poursuite. Et si victime de l'échec scolaire, tu ne comprends pas, ne t'en veux pas, car tu n'es pas le seul dans ce cas. Je sais bien que s'adapter n'est pas si facile. Ce système n'est pas le nôtre et il nous prend pour des débiles. Je te conseille d'ouvrir des livres et t'abreuver de savoir. Cherche à comprendre ce monde, à commencer par ton histoire. Si tu rêves de victoire, bats-toi pour y accéder. Avec du taf et de la chance, tu pourras y arriver. Petit canard, reste humble, se la péter ça sert à rien. Je te le dis, c'est ridicule et ça déshonore les tiens. Car rien ne vaut l'humilité qui caractérise les nôtres. Rien ne vaut nos vraies valeurs, donc ne fais pas comme les autres. Respecte tes potes et frères des autres airs coutumières. Car dans le fond, ça sert à rien de toujours se faire la guerre. À qui cela profite? Pas à nous dans tous les cas. J'écris canard qui unity. Petit canard, l'entends-tu pas? Petit canard, entends ma voix, car j'entends tes cris. C'est à toi que je m'adresse, car je m'inquiète pour ta vie. Alors, tends l'oreille ou tends-moi juste la main. Si je te parle ainsi, c'est que je pense à demain. Petit canard, entends ma voix, car j'entends tes cris. Si tu me dis kanaki, je te dirai unity. Petit canard, je suis comme toi, juste un canard parmi tant d'autres. Retiens juste ça, je me bats pour les autres. Alors surtout ne laisse jamais personne divisé, car comme tu le sais, notre force viendra de notre unité. Je sais que tu feras l'effort d'agir comme il le faut, afin de rester digne et d'honorer notre drapeau. Bats-toi pour nos idéaux, sans commettre l'irréparable. N'oublie pas que tes actes seront jugés par tes semblables et par les autres aussi. Donc évite de te salir, réfléchis avant d'ouvrir, mais surtout avant d'agir. Écoute, car je te parle pour que tu comprennes que la vie est ce qu'on en fait et que tu en tiens les rênes. Tu sais d'où que tu viennes, je t'en prie, reste le même. Que tu évolues en tribu ou dans la jeune urbaine, les problèmes restent les mêmes. Car rien n'est facile, j'en place une au passage pour tous nos frères en exil de la grande terre aux îles. Mon message, je colporte au fur et à mesure. Ma parole devient forte, mais bon, libre à toi de faire ce que t'en veux. Moi je l'ouvre pour les nôtres, pour qu'un jour tout aille mieux, pour qu'un jour on s'en sorte et qu'un jour on soit fort. Et j'espère voir ça avant les jours de ma mort. Je suis venu péter le score, mais plus rien ne m'amuse. Et en pensant à nos leaders morts, leur système j'accuse. Mais ce qui est écrit, je ne fais que le dire. Faut qu'on aille de l'avant, donc prépare ton avenir. Petit canard, nous sommes pareils, malgré nos différences et malgré nos divergences.